Suivez Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Dans un instant, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, s'il vous manque des clés pour décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne, surtout n'hésitez pas, appelez-nous ici à Paris, nos correspondants, nos envoyés spéciaux, nos experts au sein de la rédaction répondront à toutes vos questions. 33 9 693 693 70. Vos questions également sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, RFI vous donnera la parole sur les importantes inondations qui touchent l'Afrique de l'Ouest. Si vous habitez la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana, le Niger ou encore le Nigeria, vous avez pu constater les dégâts. La saison des pluies a commencé et comme chaque année, les dégâts sont importants, notamment dans les capitales où de nombreux quartiers ont régulièrement les pieds dans l'eau en raison du manque d'infrastructures, de l'encombrement des caniveaux ou encore des constructions anarchiques. Malheureusement, comme tous les ans, les pluies font des morts, notamment en Côte d'Ivoire et au Niger. Alors, quelles leçons faut-il tirer de ces importantes inondations? Racontez-nous comment se déroule la prise en charge des sinistrés et dites-nous quels moyens votre pays met en place pour anticiper la saison des pluies. Vos témoignages, ils sont déjà nombreux, nous arrivent au standard 33 9 693 693 70 et des dizaines de réactions sur la page Facebook. J'en lirai évidemment quelques-unes pour alimenter le débat et la réflexion. La première question du jour nous vient de Sévaré, c'est au Mali. Bonjour Issa.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Merci de nous appeler. Vous avez des questions sur les récentes violences entre Peul et Dogon au Mali, justement dans votre pays.
Bien sûr, la semaine dernière, des affrontements entre Peul et Dogon ont causé la mort de 32 personnes à Djungani, dans l'échec de Kourou au Mali. Ma question est de savoir ce qui a été à l'origine de ces affrontements. Est-ce que les affrontements entre ces deux communautés sont fréquents? Quelles sont les mesures prises par les autorités pour que ces actes d'affrontement ne se répètent plus?
Oui, bonne question, effectivement. Que s'est-il passé la semaine dernière dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, près de la frontière avec le Burkina Faso? Bonjour Laura Martel.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
En direct de Bamako, vous êtes l'envoyé spécial de RFI. Les violences entre ces deux communautés ont fait une trentaine de morts. Que s'est-il passé concrètement? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres?
Bah écoutez, même maintenant, Juan et Issa, il est assez difficile de savoir exactement l'origine de la première mort qui a déclenché ces violences, d'autant en fait que l'alerte a été donnée tardivement. Il faut savoir que c'est une région assez isolée, donc près de la frontière du Burkina, comme vous le disiez, où l'État est peu présent et où il y a depuis des mois des difficultés de communication, puisque des terroristes présents dans la zone ont détruit notamment les antennes téléphone proches de ces localités, et qu'une fois alertés, donc les autorités ont mis aussi du temps à se déployer, les forces de sécurité ont mis du temps à se rendre sur place car l'accès est toujours difficile à cette zone à cause du sable et encore plus en période d'hivernage à cause de la pluie. Donc ce qu'on sait selon plusieurs sources, dont le député de Koro, c'est que c'est un différend entre un Dogon qui revenait du marché de Douna et un Peul qui a entraîné la mort de ce Dogon. C'était le vendredi 17 juin et c'est cet assassinat qui a déclenché un cycle de représailles meurtrières les deux jours suivants qui ont fait donc, selon le communiqué publié par l'armée malienne, 31 morts dont 27 Peul et 4 Dogons, ainsi que 9 blessés, dont 1 Peul et 1 Dogon. Il faut savoir aussi que de nombreuses habitations et réserves de vivres ont été également brûlées.
Oui, les violences ont duré plusieurs jours. Le calme est certes revenu, mais la tension est vive. Il faut préciser, Laura Martel, que depuis maintenant un peu plus d'un an, on constate une multiplication des violences dans le centre du Mali entre les Peul et les Dogons.
Alors c'est vrai qu'il y avait déjà eu des affrontements meurtriers de ce type en mars dernier, c'était plutôt là vers Niono, mais ces tensions entre Dogons qui sont essentiellement sédentaires et Peul, eux à majorité nomades, sont récurrentes depuis de nombreuses années, et notamment au moment de l'hivernage, souvent pour des questions foncières liées aux champs ou à la transhumance, et surtout en fait ces derniers temps, depuis le conflit, ces dernières années dans le nord du Mali, la pression sur les terres en plaine est devenue plus forte, c'est ce qu'affirme, un membre d'ONG dans la zone, car les Dogons, en fait, qui vivent sur la falaise et qui vivaient beaucoup du tourisme, ont été contraints, faute de touristes, de reprendre des activités de culture en pleine, donc pression sur les terres. Les difficultés économiques touchent aussi, bien sûr, les Peuls, qui vivent habituellement de l'élevage, et qui sont en plus confrontés, à cause de l'insécurité, à la multiplication des vols de bétail. Du coup, certains ont aussi besoin de cultiver en pleine pour vivre, ce qui augmente encore une fois la pression sur les terres. Alors, certaines sources sur place indiquent justement que c'est peut-être un différent foncier qui a causé le premier mort, mais le député de Corot précise que démêler les motivations de ces affrontements est de plus en plus compliqué à cause de la suspicion réciproque de plus en plus forte de ces communautés, à cause de la présence des groupes terroristes dans cette zone. Vous le savez, depuis 2012, il y a des groupes terroristes, notamment celui du prêcheur Peul, Amadou Koufa, côté malien, qui sévit dans cette zone, et plus récemment le groupe Ansarul al-Islam, mené par Ibrahim Alam Diko, côté burkinabé, qui lui aussi est Peul, et cette présence a exacerbé donc la suspicion et surtout la stigmatisation entre les communautés. Certains Dogons accusent les Peuls de proximité, voire d'appartenance au groupe terroriste, tandis que certains Peuls, eux, reprochent aux Dogons d'aider l'armée malienne à les pourchasser, de manière indiscriminée. Et les affrontements sont de plus en plus meurtriers, Juan, car les armes automatiques qui pullulent depuis le conflit dans le nord, dans cette région, ont remplacé les armes traditionnelles, et donc il y a beaucoup plus de morts en cas d'affrontement.
Ouais, il y a donc des amalgames qui sont faits de part et d'autre entre les différentes communautés, Peul et Dogon. En quelques mots, quelles mesures les autorités maliennes ont-elles pris pour essayer d'apaiser la situation sur le terrain ?
Alors, les forces armées maliennes sont intervenues sur place. Elles sont arrivées vers le lundi. Elles ont réuni, disent-elles dans leur communiqué, toutes les parties, maires, chefs de village, imams, pour les faire revenir à la raison. Les protagonistes, disent l'armée, auraient promis d'arrêter les affrontements. Et puis, la semaine dernière, une délégation avec trois ministres, dont celui de l'administration territoriale, se sont aussi rendus sur place. Tiémen Coulibaly précise qu'ils ont prépositionné des stocks de vivres pour aider les populations, que l'armée a distribué des tentes. Et il a également annoncé le déploiement prochain d'une force de la garde nationale pour s'interposer entre ces populations. Mais précisons que, selon une source administrative locale que j'ai pu contacter hier, le calme est bien revenu désormais dans la zone. Mais cette source précise que la force de la garde annoncée, si elle est bien sur le point de se déployer, n'était pas encore arrivée sur place hier.
On aura peut-être l'occasion d'en parler dans les prochains jours. Issa, on a répondu à vos deux questions ?
Oui, Juan, très bien, merci beaucoup.
Bonne journée à Sévaré, et si vous souhaitez commenter justement cette actualité, surtout n'hésitez pas, rejoignez-nous, nous vous donnerons la parole vendredi. Le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix, 33 9 693 693 70. Merci Laura Martel, envoyée spéciale de RFI à Bamako, au Mali. Il est 10h18 ici à Paris, ce sont vos questions. Nous accueillons Adoum, qui est à N'Djamena, au Tchad. Bonjour Adoum.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Ok. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé le gel du projet pour établir un espace de prière mixte au mur de lamentation. Mm-hmm. Alors, pourquoi un tel revirement de la situation alors que le gouvernement a adopté ce projet il y a un an et demi?
Effectivement, c'est vrai que ça a surpris un peu tout le monde, hein, cette décision de Benjamin Netanyahou, qui est revenu donc sur cet accord conclu en janvier 2016, prévoyant donc, vous le disiez Adoum, la création d'un espace de prière mixte au mur des Lamentations. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Juan, bonjour Adoum.
Le correspondant permanent de RFI à Jérusalem. Avant de comprendre justement le revirement de Benjamin Netanyahou, expliquez-nous, pour planter le décor, comment se déroulent les prières au mur de Lamentations?
Eh bien aujourd'hui, l'esplanade du mur des Lamentations est gérée par les ultra-orthodoxes uniquement, et eux ont une lecture très stricte de la religion juive. Les espaces de prière sont donc séparés pour les hommes et pour les femmes, et les femmes ne peuvent pas avoir avec elles les rouleaux de la Torah lors des prières. Elles ne peuvent pas participer non plus aux cérémonies religieuses organisées par les hommes. Mais bon nombre de juifs du monde entier en fait ne se retrouvent pas dans cette lecture-là du judaïsme, dans ces pratiques aujourd'hui, et ils réclamaient donc l'instauration d'un espace qu'on appelait égalitaire ou mixte, dans lesquels hommes et femmes auraient pu prier ensemble, où les femmes rabbins auraient également été reconnues, où ils auraient pu diriger des cérémonies religieuses, où les femmes auraient pu porter les rouleaux de la Torah. C'était le sens de cet accord qui avait été conclu il y a un an et demi entre le gouvernement israélien et des organisations juives, libérales et réformatrices. Mais depuis, c'est vrai que le gouvernement a toujours freiné des quatre fers pour le mettre en application, à tel point que pour le rappeler à ses engagements, et bien l'automne dernier, un groupe de juifs libéraux et réformés américains, qui était présent en Israël pour un congrès, s'est rendu au Mur des Lamentations, un groupe qui mêlait hommes et femmes et dans lequel des femmes portaient les rouleaux de la Torah. C'était là un double affront pour les ultra-orthodoxes qui les attendaient donc sur place et qui ont tenté d'arracher les rouleaux de la Torah des bras des femmes. L'esplanade du mur fut le temps d'un instant la scène véritablement de combat.
Ouais, comment expliquer donc la volte-face de Benjamin Netanyahou il y a quelques jours?
Eh bien, depuis des mois, les partis ultra-orthodoxes présents au sein de la coalition gouvernementale et alliés indispensables du Premier ministre Benjamin Netanyahou, sans ces partis, la coalition au pouvoir ne peut se maintenir. Eh bien, ces partis veulent donc empêcher l'établissement de cette zone de prière mixte au pied du mur. Et c'est finalement la justice qui est venue un petit peu bousculer ce calendrier, car les organisations juives réformatrices ont porté le cas devant la Cour suprême israélienne pour obliger le gouvernement à mettre en œuvre cet accord. La Cour suprême s'est penchée sur la question. Elle avait donné au gouvernement jusqu'à lundi dernier pour répondre aux plaignants. Face à cette date butoir, les partis ultra-orthodoxes ont intensifié leur bataille et craignant de voir la justice venir se mêler des affaires religieuses, ils ont poussé pour que cet accord soit tout simplement enterré, ce qui fut le cas finalement donc lors du Conseil des ministres de dimanche. Leur voix étant encore une fois indispensable au maintien de la coalition, le chef du gouvernement ne s'y est donc pas opposé.
Voilà, donc on comprend bien que c'est avant tout une décision politique de la part de Benjamin Netanyahou. Adoum, je m'excuse, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Vous avez une autre question à nous poser.
Oui, justement. Pourquoi certains ministres estiment que le gel du projet va engendrer des tensions entre Israël et la diaspora juive?
Oui, notamment le ministre de la Défense, qui a été probablement, Guilhem Détaille, le plus virulent. On peut dire que les représentants du judaïsme réformiste ont même dénoncé une trahison de la part de Benjamin Netanyahou.
Oui, effectivement, il y a eu une série de condamnations très très vives. Alors au sein du gouvernement, il y a eu celle du ministre de la Défense, qui fut d'ailleurs, et c'est assez remarquable, l'un des seuls à s'opposer à l'abrogation de cet accord lors du vote du gouvernement de dimanche. Mais d'autres réactions sont venues aussi à l'extérieur du gouvernement, au sein de la classe politique israélienne, toutes pour condamner finalement cette décision du gouvernement. On peut prendre le cas de Yair Lapid, qui est aujourd'hui le principal rival de Benjamin Netanyahou. Il a jugé que cette volte-face faisait d'Israël la seule démocratie au monde sans égalité pour les juifs, puisque donc elle ne permet pas aux juifs libéraux de venir prier sur ce lieu qui est considéré comme le lieu le plus saint du judaïsme. Des condamnations très très fortes aussi hors de la classe politique israélienne. Vous parliez de représentants de différents mouvements juifs. Il y a l'Agence juive, qui est un organisme paragouvernemental qui fait le lien entre Israël et les communautés juives dans le reste du monde. Elle a aussi sévèrement dénoncé cette décision. Pour la première fois d'ailleurs, elle a annulé un dîner qui était prévu en début de semaine avec le Premier ministre, en geste véritablement de mécontentement. Un autre rabbin américain, qui lui est à la tête d'une organisation libérale et qui est actuellement en visite en Israël, a aussi annulé une rencontre avec le chef du gouvernement, là aussi en geste de protestation, tant et si bien que le ministre de l'Éducation, dont le parti, le foyer juif, avait pourtant dans un premier temps salué le retour à un statu quo dans la gestion de l'esplanade du mur d'élémentation, et bien ce ministre, Naftali Bennett, a reconnu que la communauté juive américaine avait eu le sentiment d'avoir été giflé par le gouvernement israélien et il juge la situation aujourd'hui véritablement alarmante.
Guilhem Détaille en direct de Jérusalem, merci d'avoir répondu à Adoum qui nous appelait de Djamena au Tchad. 33 9 693 693 70, on poursuit avec vos questions. On va revenir sur l'attentat déjoué il y a quelques jours en Arabie Saoudite devant la grande mosquée de la Mecque. On vous en a évidemment parlé dans nos différentes éditions. Bonjour Blaise.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako, nous vous écoutons.
Juan, peut-on savoir qui se cache derrière l'attentat et quelles sont leurs réelles motivations, étant donné que l'Arabie Saoudite habite le lieu saint et symbole de l'islam?
Ouais, c'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un attentat est perpétré en Arabie Saoudite, c'est même la deuxième fois en un an que les lieux saints, les lieux les plus sacrés de l'islam sont visés. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, publiée aux éditions L'Harmattan. D'abord, que sait-on de l'attentat manqué à la Mecque? Il y a eu peu d'informations qui ont tout de même circulé.
Oui, il y a effectivement le souhait de pas trop épiloguer sur ce type d'attentat qui pose un problème de sécurité et de stabilité pour le Royaume. D'après les éléments d'information dont on dispose, un kamikaze qui devait passer à l'acte de manière imminente s'est retranché dans un bâtiment de l'enceinte de la grande mosquée et identifié après des échanges de tirs, il aurait décidé de se faire sauter. Donc il y aurait eu 11 blessés, 5 policiers et 6 pèlerins. Et puis immédiatement l'enquête s'est accélérée. Deux groupes ont été identifiés dans deux quartiers de la Mecque, à la Silla, dont le kamikaze aurait été issu, et puis la cité Adjed El Massafi, et puis même un troisième groupe à Jeddah, l'ensemble aurait donné lieu à l'arrestation d'une demi-douzaine de personnes, dont une femme. Donc il n'y a pas de revendication, mais le porte-parole du ministère de l'Intérieur considère que c'était l'exécution de plans en provenance de l'étranger, dont le but était manifestement, de manière explicite, de nuire à la sécurité et à la stabilité du royaume.
Ouais, donc on ne sait pas qui sont les commanditaires.
Alors effectivement, les commanditaires ne sont pas nommés, mais vous rappeliez qu'il y a quand même des précédents, puisque lors du ramadan de l'année passée, c'est une autre ville sainte, Médine, qui avait été visée. Le 4 juillet, et donc effectivement il y avait eu 4 morts et 5 blessés, donc avec une attaque près de la mosquée Madina du prophète. Là en l'occurrence c'est la Mecque, donc ce sont les deux lieux saints, et le calendrier est intéressant parce que ça intervient dans les deux cas au moment de la fin du ramadan. Là en l'occurrence c'était le vendredi avant l'Aïd El Fitr qui sanctionne la fin du ramadan, donc c'est pas anodin, effectivement c'est visé clairement les lieux saints qui sont censés être protégés par la dynastie des Séoudes.
Ouais. Bled, vous avez une autre question, il me semble.
Oui, Juan. En effet, l'Iran et le Qatar ont proposé leur aide à l'Arabie Saoudite pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que de telles coopérations sont possibles, Juan, vu l'état actuel des crises entre ces différents pays?
Ouais, c'est vrai que malgré la brouille avec l'Arabie Saoudite, le Qatar s'est dit solidaire avec le frère voisin, l'Arabie Saoudite. Et l'Iran, grand rival régional, s'est même déclaré prêt à coopérer dans la lutte antiterroriste. Est-ce que vous pensez, David Rigoulet-Rose, que l'Arabie Saoudite va accepter cette main tendue?
Ça, c'est peu probable. Alors, on voit bien qu'évidemment les deux propositions interviennent dans le contexte très tendu, d'abord de l'isolement du Qatar et ensuite des relations conflictuelles entre Riyad et Téhéran. Notamment, on peut penser qu'effectivement l'Iran s'est dit prêt à coopérer contre les dealers de la mort, je cite. Mais il faut rappeler également que l'Iran avait par le passé été partie prenante d'émeutes à la Mecque, notamment en 1987, qui a fait plusieurs centaines de morts. Donc on voit mal évidemment comment Riyad pourrait accepter la main tendue du rival géopolitique et religieux que constitue l'Iran. Donc on est là dans une logique publicitaire, évidemment, chacun se positionnant pour montrer sa bonne foi et son engagement dans la lutte contre le terrorisme, alors même que les uns et les autres s'accusent mutuellement justement de soutenir le dit terrorisme.
Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, d'avoir été avec nous ce matin. On remercie Blaise qui nous appelait de Bamako. Vous avez été des dizaines, et je n'exagère pas, à nous appeler ces derniers jours après les propos du président Déby Itno, le président tchadien qui était invité dans l'émission internationale, l'émission de RFI de TV5. Des questions pour comprendre pourquoi il a affirmé sur les antennes de RFI que la France était intervenue pour changer la constitution tchadienne. On avait prévu d'avoir notre correspondant d'RFI à N'Djamena, mais malheureusement, le réseau téléphone ne passe pas, donc ne vous inquiétez pas, je rassure tous ceux qui espéraient avoir une réponse à cette question, vous l'aurez très certainement demain matin en direct sur l'antenne d'RFI. N'oubliez pas, dans 10 minutes, juste après le journal, vos réactions et surtout vos témoignages sur les importantes inondations qui touchent l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes nombreux à témoigner, par exemple, El Rey sur Facebook nous dit, ici au Bénin, à part le curage des caniveaux avant la saison des pluies, rien de concret n'est fait pour éviter ce spectacle désolant. Aucun comité de crise au sommet de l'État n'est mis en place et les populations s'organisent dans chaque quartier pour éviter le pire en installant des barricades avec des sacs de sable. Je lirai évidemment le plus grand nombre de témoignages tout au long de l'émission, des réactions qui nous viennent du Niger, du Togo, du Burkina Faso, du Tchad, mais aussi d'Abidjan. Voilà, pour l'essentiel, donc continuez à nous rejoindre, nous vous donnerons la parole. Quelles leçons faut-il tirer des importantes inondations? 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.